La prière. Nous sommes tous d'accord, nous sommes conscients que c'est quelque chose de très important pour nous, croyants. Et Daniel l'a souligné dans sa prière avant, il a dit que la prière, c'est la respiration du croyant. Et chaque jour, nous sommes appelés à vivre ce moment de communion, comme Bob nous l'a rappelé, avec Dieu. Mais il nous arrive souvent, lorsqu'on réfléchit, il nous arrive souvent de passer à côté de la présence de Dieu, même dans ce moment de prière. Et ce matin, je voulais vous inviter à reconsidérer notre façon de prier à la lumière du Notre Père, ce modèle de prière que Jésus a enseigné à ses disciples et qu'il nous a laissé aussi, nous, ses disciples, aujourd'hui. Est-ce que ma prière, est-ce que ta prière est conforme à ce modèle que Dieu nous a laissé? Lorsque nous considérons le Notre Père, je crois que personne ne peut nier, aucun ne peut nier que c'est une prière riche. C'est un modèle qui renferme toutes sortes de prières qu'un croyant pourrait adresser à son Dieu. Et sur cette base, nous pouvons déjà dire que la prière du croyant, du disciple, devrait en quelque sorte être une expression du Notre Père. Mais je reconnais que ce n'est pas souvent le cas pour moi. Et je crois que chacun peut en témoigner. Est-ce le cas pour moi? Non. Est-ce le cas pour toi? Regardons ensemble l'enseignement de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 6 sur la prière. Nous lirons seulement les versets qui correspondent au Notre Père. Nous l'avons déjà lu, mais je vais relire ce passage. Mais je voulais d'abord noter que dans ce contexte d'enseignement sur ce sujet très important pour le disciple, Jésus-Christ a commencé à rappeler ce que la prière n'est pas. Il souligne deux erreurs que nous commettons, nous pouvons commettre facilement lorsque nous nous adressons à Dieu. Jésus dénonce l'hypocrisie et les vaines répétitions. L'hypocrisie, c'est lorsque l'on détourne la prière de Dieu et on cherche notre propre gloire, tout simplement. C'est la prière du pharisien. Je me présente devant Dieu. Ce qui est important pour moi. C'est mon image. Ou même l'image que l'autre a de moi. Est-ce que l'autre entend que je prie bien? Est-ce que l'autre entend que je prie comme un bon chrétien? Et ça peut paraître un peu enfantin, mais on peut passer par ce niveau-là parfois. Et l'autre aspect que Jésus-Christ a dénoncé, c'est la prière machinale. Et c'est ce que nous, les chrétiens, nous faisons souvent avec le Notre Père que Jésus nous a laissé. Nous répétons des mots sans vraiment réaliser ce que nous répétons, sans vraiment réaliser ce que nous disons. Jésus dénonce le fait de prononcer des mots qui n'ont aucun sens pour nous. Et après ces deux remarques dans l'enseignement sur la prière, Jésus-Christ poursuit en précisant ce qu'est la prière authentique. Bob nous l'a rappelé avant. C'est une rencontre personnelle avec Dieu dans le secret. Une communion intelligente, réfléchie, pleine de sens et de signification. Alors, une fois dans cette communion, que dire? Comment s'exprimer? C'est là que Jésus-Christ nous propose ce modèle de prière. Dans cette communion avec Dieu, que dire? Bien sûr, comme dans tout moment d'intimité, parfois il est nécessaire de ne pas parler. Il est préférable de profiter, de savourer le silence. Car je crois, dans ces moments avec Dieu, il a pas mal de choses à nous dire aussi. Et nous ne prenons pas souvent le temps d'écouter Dieu. Le silence dans la prière, c'est très important. Dieu nous parle, il se révèle à nous dans ce cadre. Mes quelques propos ce matin concernant ce sujet sont inspirés des différents échanges que nous avons eus dans le cadre du groupe de maison, parce que ça fait à peu près ça fait quelques semaines qu'on étudie la prière, qu'on échange autour de ce sujet. Et je suis désolé pour les membres du groupe de quartier, il y aura des choses que vous aurez déjà entendues. Et de quelques lectures que j'ai faites sur ce sujet également. Et dans l'un des textes sur lesquels nous nous basons pour échanger dans le cadre du groupe de quartier, un texte intitulé Prier selon les règles de l'art, l'auteur Eugène Peterson nous rappelle que la prière est une réponse à la parole de Dieu. Ce qui veut dire quelque part. Dans la prière, nous devons vraiment prendre le temps de vivre ce moment de silence. C'est Dieu qui parle en premier. Et c'est parce que Dieu nous parle que nous pouvons répondre. Et l'auteur a pris aussi dans ce texte une image qui m'a beaucoup parlé. C'est l'image d'un petit enfant. Et il dit que, un enfant arrive à parler une langue parce que, une fois, quelqu'un lui a parlé dans cette langue. Une fois encore, et ainsi de suite. Et je crois que nous devrions apprendre cela dans le cadre de notre vie de prière avec Dieu. Apprendre à écouter Dieu d'abord, parce que c'est de cette façon que nous pouvons vraiment lui parler de façon appropriée. Nous pouvons nous adresser à Dieu parce que Dieu nous a parlé le premier. Il a fait le premier pas. Il est venu vers nous pour nous aimer, pour nous réconcilier avec lui. Faisons la lecture du Notre Père. Nous l'avons déjà lu. Je vais relire ce passage dans. Bon, ce n'est pas la même version. Je lis dans la version du Semeur. Matthieu 6, les versets 9 à 13. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers tout. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Dans cette prière du Notre Père, nous pouvons bien évidemment souligner toutes les caractéristiques d'une prière authentique, selon Jésus. Et ce matin, je voudrais me limiter à trois points. La prière, reconnaissance et confession. La prière demande et la prière combat. La prière, reconnaissance et confession. Je voudrais vous faire remarquer que Jésus-Christ commence le Notre Père avec quelque chose qu'il vient, on pourrait dire ça, qu'il vient juste de dénoncer quelques versets plus haut. Il répète trois fois la même chose. que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais lorsqu'on regarde de plus près ce texte, on peut dire tout de suite que là, il ne s'agit pas d'une récitation machinale, mais c'est une requête pleine de signification. Jésus a enseigné à ses disciples cette prière, « Que ta volonté soit faite ». Et nous sommes invités à faire cette prière aussi, en tant que disciples de Christ aujourd'hui. Jésus-Christ a fait cela pour nous conduire à exprimer l'image que nous avons de Dieu, à réaliser à qui nous nous adressons vraiment. Lorsque nous réfléchissons un peu en public comme en privé, nous constatons que nous sommes davantage préoccupés par notre demande et même notre image, comme on l'a souligné avant. Jésus nous invite ici à introduire vraiment dans la présence de Dieu, nous tourner vers Dieu et nous assurer que c'est vraiment à lui qu'on parle. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite ici découle directement de la reconnaissance de Dieu pour ce qu'il est. Dans le secret de ma chambre, dans le secret de sa chambre, le croyant réalise que le Dieu à qui il s'adresse, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au-dessus de tout, et surtout un Dieu rempli d'amour. Alors, face à cela, tout ce qu'il peut faire, c'est se soumettre à la souveraineté de ce Dieu pour être au bénéfice de son grand amour. Prier que ta volonté soit faite, c'est donc reconnaître que Dieu est Dieu et lui demander d'être le Dieu de notre vie. Lui demander de régner en nous. Cette prière, que ta volonté soit faite, comporte aussi une autre dimension. Nous reconnaissons Dieu pour qui il est, pour ce qu'il est. Mais en même temps, nous confessons que notre environnement est hostile à la volonté de Dieu. Nous reconnaissons tous que ce n'est pas facile pour nous d'obéir. Même quand Dieu se révèle à nous, on a du mal à nous soumettre à cette volonté. En nous et notre entourage, dans notre monde, il y a des forces qui résistent, qui s'opposent à la volonté de Dieu, à la sanctification de son nom, à la venue de son règne. Dans Éphésiens chapitre 6, les versets 11-12, la parole nous dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Priez que ta volonté soit faite, c'est donc finalement admettre devant le Dieu Tout-Puissant l'existence d'un réel combat pour l'accomplissement de sa volonté dans notre vie, dans notre famille, dans notre vie professionnelle, dans notre ville, notre pays, notre monde. Et aussi, c'est accepter d'y entrer et de mener ce combat en nous appuyant entièrement sur ce Dieu Tout-Puissant. On peut finalement comprendre que Jésus nous demande de prier que ta volonté soit faite pour nous faire saisir un choix du Dieu souverain qui nous dépasse. Dieu choisit de faire dépendre la réalisation de sa volonté, de son plan dans ma vie, de moi. Dieu choisit de faire dépendre la réalisation de sa volonté, de son plan dans notre vie, de nous les humains. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait quand il est venu dans ce monde à la personne de Jésus-Christ pour réaliser son vœu le plus cher, qui est de nous réconcilier avec lui, de nous aimer. Et aujourd'hui encore, Dieu veut nous utiliser dans son plan de salut pour ceux qui sont encore loin de la croix. Alors ce matin, la question qu'on peut se poser par rapport à cette prière que Jésus-Christ nous a enseignée, que ta volonté soit faite, nous pouvons nous demander, est-ce que nous expérimentons vraiment cette puissance de Dieu? Est-ce que nous connaissons la joie de vivre sa volonté, de le voir régner en nous, dans notre entourage? Eh bien, pour expérimenter cela, si nous ne l'expérimentons pas encore, nous devons prier que ta volonté soit faite dans l'esprit du Notre Père. Et si vous le vivez déjà, gloire à Dieu, et que Dieu nous aide davantage à aller plus loin dans cette direction, dans cette prière, que ta volonté soit faite. Nous avons dans la Bible pas mal d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont connu des situations défavorables. Nous pouvons citer Daniel, Joseph, Esther. Il y a aussi l'exemple des chrétiens de Jérusalem qui, lorsque Pierre était en prison, les circonstances n'étaient pas du tout favorables. Mais quelque part, ils ont compris une chose. Ils n'ont pas regardé à ces circonstances. Ils ont saisi que le plan de Dieu devait se réaliser par leur fidélité à la prière. Ils ont prié et là, ils ont vu la gloire de Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans notre Église. Prions que ta volonté soit faite, comme Jésus nous l'a enseigné. Dieu est Dieu. Et nous l'invitons à être le Dieu de notre vie en faisant cette prière, que ta volonté soit faite. Une fois que c'est fait, nous pouvons lui faire sans crainte toutes sortes de requêtes maintenant, nous concernant et concernant nos prochains. Et c'est l'enseignement de Jésus-Christ dans la deuxième partie du Notre Père. C'est la prière demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain et pardonne-nous nos offenses. Il s'agit ici de cette prière demande. Prier, c'est demander. Et demander tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Jésus nous le dit dans Matthieu 7, les versets 7 et 8. Demandez et vous recevrez. Celui qui demande reçoit. Et dans Hébreux 4, verset 16, la parole nous dit également, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors lorsque nous prions, donne-nous aujourd'hui notre pain et pardonne-nous nos offenses, nous exprimons simplement notre dépendance totale de sa grâce. Tous les aspects de notre vie sont soumis à la grâce de Dieu. Refusez donc de prier, de demander, soit parce que nous pensons que Dieu a des choses plus importantes à faire, soit parce que nous pensons que Dieu devrait s'occuper davantage de choses spirituelles. Il y a tel frère ou telle sœur qui a plus de problèmes spirituels dans sa vie. Il y a des gens qui sont dans des situations pires que moi, ou soit parce que nous pensons pouvoir tout régler, tout contrôler. C'est une erreur. C'est sous-estimer la toute-puissance de Dieu. C'est limiter son amour. Si nous faisons cela, nous sommes en contradiction avec la requête, sois Dieu de ma vie, que ta volonté soit faite. Et de notre côté, dans notre prière aussi, si nous nous concentrons uniquement sur nos besoins, si nos besoins prennent toute la place dans ces moments de communion avec Dieu, c'est une erreur aussi, parce que nous détournons la prière à notre propre gloire. Nous tombons dans la prière hypocrite dénoncée par Jésus. Prier pour nos besoins, d'après l'enseignement de Jésus-Christ, c'est important, c'est normal. C'est le Seigneur qui nous l'enseigne. Et qui d'autre que ce Dieu tout-puissant que nous avons découvert, ce Dieu qui est au-dessus de tout, ce Dieu compatissant, pourrait répondre à nos besoins. Mais quels sont ces besoins? De quels besoins s'agit-il? Nous pouvons noter que dans cette prière, le Notre Père, Jésus-Christ utilise deux termes pour couvrir tous nos besoins, le pain et le pardon. Donne-nous aujourd'hui notre pain et pardonne-nous nos offenses. Le pain concerne bien sûr la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un élément essentiel pour la vie du croyant. Et nous l'avons chanté avant. Et ces paroles que Jésus-Christ a utilisées pour répondre à l'ennemi lors de sa tentation, que nous trouvons dans Matthieu 4, verset 4, Jésus dit, « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Le pain est important. Mais le pain ne représente pas uniquement la parole de Dieu. Le pain a aussi une dimension plus terre à terre pour nous croyants, puisque nous vivons dans ce monde. Le pain inclut les éléments matériels, les besoins les plus concrets de la vie. Et à ce propos, Luther dit que le pain est le symbole de tout ce qui est nécessaire au maintien de la vie, comme la nourriture, la bonne santé, le beau temps, la maison, le foyer, l'épouse, les enfants, le bon gouvernement et la paix. Et le psalmiste David va un peu plus loin dans le psaume 38. Il est écrit, « Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés et tous mes soupirs sont devant toi. » David ne présente pas uniquement ses besoins, mais ses soupirs, ses désirs aussi. Nous pouvons tout déposer au pied de notre Dieu. Et j'ai envie de dire, même ses désirs que nous sachons être en contradiction avec sa parole. Parce que Dieu, ce Dieu qui veut glorifier son nom dans notre vie, est capable de mettre en nous des désirs qui peuvent le glorifier. Il est capable de mettre de l'ordre dans nos désirs. N'ayons pas peur de déposer, de remettre à notre Dieu tous nos besoins, tous nos désirs. Dans son enseignement, Jésus-Christ nous dit, avant de donner le Notre Père, en Matthieu 6, le verset 8, Dieu sait ce dont nous avons besoin avant que nous le lui demandions. Si Dieu sait tout ça, et que dans nos prières, nous ne déposons pas à ses pieds nos besoins et nos désirs, nous sommes faux. Lui qui nous a créés, il sait qu'il nous a mis dans ce monde et on a des besoins. Et nous faisons semblant de ne pas lui soumettre ses besoins. Lui, le Dieu à qui on demande de régner sur notre vie. En nous invitant à prier pour le pain, Jésus nous appelle à être vrais devant Dieu. Et aussi à exprimer une fois encore notre dépendance vis-à-vis de Dieu pour aujourd'hui. Il y a là une volonté de la part de Jésus de nous rendre conscients de cette dépendance quotidienne. Chaque jour de ma vie, dans tous les domaines, je dois m'attendre à Dieu. Est-ce le cas pour nous? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est donc la prière du croyant, du disciple qui s'attend chaque jour à celui qui est le Dieu de sa vie. Un autre élément essentiel pour la vie du croyant, c'est le pardon. Pardonne-nous nos offenses. Pardon. En tant que croyant, nous avons bien sûr expérimenté le pardon de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes couverts de sa justice. Chaque jour, ce Dieu nous prodigue plein d'affection dans tous les domaines de notre vie. Mais Jésus nous demande quand même de prier, pardonne-nous nos offenses, car il nous arrive encore de pécher. Et pour continuer à progresser dans notre relation avec ce Dieu, nous devons confesser nos péchés. Nous devons confesser les fautes qu'il nous arrive de commettre encore. Et de notre côté, Jésus-Christ sait aussi que nous avons besoin de relations apaisées avec nos prochains. Et c'est là qu'il y a ce complément à cette prière. Pardonne-nous nos offenses. Je lis dans ma version. Pardonne-nous nos torts, en vers 3. Comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Prier ainsi, c'est donc demander à Dieu, d'une certaine façon, de faire résonner son pardon dans nos relations avec les autres. Dieu nous connaît, il sait que par nos propres efforts, par nos propres moyens, nous ne pouvons pas pardonner. Ce n'est pas naturel chez nous. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité sur l'affaire Cahuzac. Et j'étais vraiment surpris d'entendre tous ces politiques arriver à la même chose. En politique, il n'y a pas de pardon. Comme si tous les autres étaient propres, ça. En politique, il n'y a pas de pardon. Bon, ça prouve que voilà, c'est juste une constatation. Et nous, on est dans la même situation. Dans d'autres circonstances, on réagit de la même façon. On ne veut pas pardonner. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous invite à faire cette prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Accepter de faire cette prière, c'est finalement reconnaître que nous sommes limités dans ce domaine du pardon. Que seul Dieu peut inscrire son pardon dans notre vie, dans nos relations les uns avec les autres. Jésus nous invite donc ici à vivre dans cette économie du pardon que son Père a instituée. Nous avons été pardonnés, alors sachons montrer que l'esprit du pardon règne en nous. C'est cet esprit-là qui dirige notre vie. Si quelque part nous n'arrivons pas à pardonner, c'est que nous n'avons pas compris ce que Dieu a fait pour nous. Vivons dans cette économie du pardon. À la fin de notre Père, Jésus-Christ revient sur quelque chose qui était plus ou moins implicite dans la première partie de cette prière. Il s'agit du combat du croyant. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Là, Jésus-Christ rend plus explicite cette idée de combat pour le disciple. Ce que j'aimerais souligner dans cette prière, c'est deux points. Prononcer ces paroles, faire cette prière, c'est bien sûr, nous l'avons déjà souligné dans la première partie, c'est reconnaître que nous sommes dans un combat. Nous sommes constamment exposés à toutes sortes de tentations. Et faire cette prière, c'est aussi demander à Dieu cette délivrance. Mais lorsque nous regardons, c'est une délivrance à deux temps. Nous vivons dans ce monde, tous les jours nous sommes exposés à la tentation. Nous ne pouvons pas éviter ces tentations. D'ailleurs, la parole nous dit dans Jacques chapitre 1, que ces épreuves, ces tentations sont bénéfiques pour nous. Et donc, si Jésus nous demande de prier, c'est de faire cette prière, alors que la parole nous dit que ces épreuves et tentations sont bénéfiques pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? C'est uniquement pour dire à Dieu, nous avons besoin de ton aide pour nous aider à surmonter ces tentations. On ne va pas éviter les tentations. Les tentations seront toujours là. Mais, rappelez-vous, Dieu, Jésus nous promet d'être avec nous en toutes circonstances. Et c'est cette présence-là dans notre vie qui va nous aider à surmonter la tentation et pas l'éviter. Dans Jacques 1er, les versets 2 à 4, nous lisons « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Faire cette prière, c'est donc prendre position pour lutter contre les mauvais esprits. Ces mauvais esprits que nous avons déjà soulignés dans Éphésiens chapitre 6, les versets 12 avant. C'est prendre position pour lutter contre les épreuves de la foi par la prière. Et devenir des disciples mûrs, prêts pour la victoire finale. Et cette victoire finale, c'est la deuxième étape dans la délivrance. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du mal. Nous savons qu'au dernier jour, quand le Christ reviendra, nous serons complètement délivrés du mal. Oui, l'ennemi n'aura plus ce pouvoir de nous tenter. Nous serons dans la présence de Dieu. Dieu est Dieu, et nous voulons, nous prions que ta volonté soit faite. Nous voulons qu'il soit le Dieu de notre vie, qu'il règne en nous. Et comme il est ce Dieu qui règne sur nous, qui règne sur notre famille, qui règne sur tous les aspects de notre vie, nous pouvons lui demander tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde. Et nous pouvons lui demander aussi de nous délivrer du mal, parce que c'est ce mal qui cherche à nous éloigner de lui chaque jour. Ces trois points que nous avons soulignés dans cette prière que Jésus-Christ nous a laissée, on peut dire que finalement ces trois points couvrent tous les aspects de la vie du croyant. L'aspect matériel, le pain quotidien que nous avons, dont nous avons besoin. L'aspect spirituel, Dieu est le Dieu de ma vie. Il règne sur ma vie, il me donne son pardon pour être réconcilié avec lui et pour vivre des relations apaisées avec mes prochains. Et il y a aussi un aspect moral. Dieu nous délivre du mal dans le présent. Et nous nous réjouissons d'attendre son retour pour être complètement délivrés. Est-ce que nos prières quotidiennes reflètent ces trois points? Vivons-nous la prière authentique selon le Notre Père? J'aimerais terminer en soulignant un point qui m'a beaucoup parlé lorsque j'ai revu le Notre Père avec le groupe de quartier. C'est que finalement, ma prière sera efficace, l'efficacité de ma prière, la qualité de ma prière va dépendre de l'image que j'ai de Dieu. J'aimerais finir sur ce point-là. Quelle est l'image que nous avons de Dieu? Parce que quand on regarde le début du Notre Père, si on passe à côté, je crois que les deux points suivants et même tous les autres points du Notre Père. Nous allons passer à côté de ces points aussi. Si je ne sais pas que Dieu est Dieu, qu'il est le Dieu tout-puissant qui règne sur ce monde malgré les circonstances contraires dans la vie de tous les jours, je ne pourrai pas déposer mes besoins à ses pieds. Je ne pourrai pas compter sur lui pour qu'il me délivre du mal. Quelle est l'image que nous avons de Dieu? Je ne vais pas terminer par la prière. Je vous laisse juste un petit moment de réflexion et j'espère que Dieu va nous aider à réfléchir sur ces quelques propos durant cette semaine, dans les jours à venir, et qu'il nous aide vraiment à entrer dans la logique de la prière du Notre Père. Qu'on arrête de passer à côté de quelque chose aussi extraordinaire. Vive cette communion avec Dieu. Dans cette communion, tout ce qu'on peut en tirer, et je crois que on en tire peut-être pas grand-chose, voilà. Ce serait bien de vivre la prière selon ce que Jésus-Christ nous a enseigné pour progresser davantage dans notre relation avec Dieu.